6h02, mardi 13 août. Bonne journée et bienvenue à l'antenne du 98.5 FM. Alors, ce matin, quelques nuages pour démarrer la journée. Mais la prévision nous laisse clairement voir une belle journée, du temps généralement ensoleillé, avec des vents très légers. Le maximum prévu aujourd'hui, 27 degrés, il n'y a pas de pluie. Humidex est à 29 ce soir et cette nuit partiellement nuageux, avec un minimum de 16 degrés. Demain, mercredi, généralement ensoleillé aussi, 26. Jeudi, c'est du soleil, 25. Et vendredi, peut-être un peu plus de nuages, mais il n'y a pas de pluie de prévu durant toute la semaine, avec un maximum de 25 degrés. Je lis dans vos pensées. Je vous ai comme entendu pendant la chronique de Marie-Laurence, en écoutant les propos du frère de l'accusé, qui dit quoi, dans le fond? Qui dit que son frère était un homme religieux, que son frère était quelqu'un qui avait des valeurs conservatrices, que la différence d'âge était un facteur dans la relation difficile entre la victime et son ex-conjoint, et que, je reprends les mots, elle l'énervait. C'est pas pour rien que j'ai fait comme un silence tantôt, parce que j'ai jonglé dans ma tête avec d'autres cas que j'ai déjà vus, des personnes que j'ai interviewées. Et tous les... toutes les raisons sont bonnes, hein? Elle m'a énervé. Elle voulait de la liberté. Je la sentais loin de moi, je perdais le contrôle. Je ne suis pas un expert là, dans le domaine, mais je peux vous dire, j'en ai interviewé des gens. Là. Et je parle de drames comparables, nonobstant la religion. Là, où des hommes n'acceptaient pas une rupture, une séparation, où des hommes n'acceptaient pas de ne pas avoir le contrôle, de pouvoir dominer. Puis quand la conjointe est en train de retrouver une forme de liberté, pétait sa coche. Je vais vous donner un exemple. Sans trop donner de détails précis. J'ai un cas en tête. C'est une séparation. Le couple habitait une maison sur la rive sud de Montréal. Le monsieur garde la maison. Madame s'installe ailleurs. Je vous dirais, là, 15 minutes en auto. Lui a vu ça comme étant une façon où madame avait planifié de lui empêcher de voir son fils. 15 minutes en auto, là. Pas aller vivre dans un autre pays. Des hommes qui exercent le contrôle. Des hommes qui ne peuvent pas s'imaginer de voir leur conjointe être libre et de penser différemment. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous sont tentés ce matin de faire des amalgames en disant « Ah ah, on le sait bien, musulmans, intégristes, différence d'âge, il a dû la frapper, il l'a dominée, puis elle s'est rebellée, puis etc., etc. » Je peux vous dire aussi que c'est vrai, des situations comme ça. Et je ne dis pas que la religion dans ce cas-là n'est pas un facteur. Je vous dis qu'il ne faudrait pas faire des amalgames trop rapides puis tirer des conclusions. Parce que des hommes violents, là, il y en a toute religion confondue. Mais ce qui est frappant aussi, je l'ai dit hier, c'est de voir que c'était comme connu. Tu sais, des fois, la violence, elle est cachée. On la découvre après. Dans ce cas, depuis le début, on entend des gens nous dire, ben, on le savait, puis c'était une relation toxique. On savait comment ça se passait. C'est quand même assez particulier. Commençons notre revue de presse ce matin d'abord par cette nouvelle qui est dans la presse, mais également dans de gazettes ce matin. Souvent, vous dites, ah, les cyclistes s'en sortent facilement à Montréal. Il n'y a pas assez de tickets, il n'y a pas assez de contraventions. Les chiffres montrent que le SPVM a donné 12 285 contraventions à des cyclistes en 2018. La ville de Toronto en a distribué 292. Ce sont des chiffres obtenus par le Toronto Sun. Alors là, tu te dis comment ça se fait que c'est tant de tickets à Montréal ou encore comment ça se fait que c'est si peu de contraventions à Toronto. Réponse du SPVM. Les policiers doivent appliquer le code de sécurité routière et on doit intervenir quand il y a des infractions au code de la route. Réaction de Vélo Québec, on n'est pas contre le principe, évidemment, de donner des contraventions pour des gens qui brûlent des feux rouges, pour des gens qui ont un comportement à risque, qui zigzaguent entre les voitures, mais des contraventions données pour des réflecteurs et des opérations ciblées à proximité des pistes cyclables, ce n'est pas une solution de protéger les usagers. On n'aime pas ça, personne, de recevoir une contravention. Je me souviens des opérations ici, là, Place Bonaventure, où les gens traversaient ailleurs qu'aux intersections prévues. Puis tu avais un policier qui était là, puis qui interpellait, puis qui donnait une contravention en disant « Vous n'avez pas le droit de faire ça. » Puis tu dis « Ben oui, c'est bien cave. Je fais juste passer, puis je suis prudent, puis je surveille. Puis c'est du harcèlement, puis c'est des quotas. » Puis bon, il y a des quotas. Il y a eu en fait des quotas là, au SPVM. Mais le point dans ça, c'est qu'il y a des cyclistes, puis il faut se le dire franchement, qui sont dangereux. Qui sont dangereux. Et c'est sûr qu'ils sont vulnérables. Ils sont en vélo. Ils n'ont pas de protection. Toi, tu es dans ton auto ou dans ton camion. Et tu te fais couper. Ou encore, et là, je sais, les cyclistes vont me dire que l'inverse également est vrai. Il y a des automobilistes qui sont... Tout ça est vrai. Est-ce que c'est normal qu'on donne des tickets à des fous sur deux roues? La réponse, c'est oui. J'ai l'impression que Toronto, quand tu regardes les chiffres, c'est pas qu'ils sont meilleurs, là, c'est pas qu'ils sont moins délinquants, c'est juste que probablement que c'est pas une priorité et qu'on s'en occupe pas trop. Alors, c'est peut-être un mythe, l'idée que les cyclistes n'ont pas de ticket. T'sais, 12 000 quand même, c'est pas mal. Certains diront c'est pas assez. Mais je maintiens pareil ce que je disais hier, là, ce qui a fait réagir pas mal de gens. Moi, je pense que les comportements changent quand les gens ont peur de se faire coincer puis d'avoir une contravention. Et durant les dernières semaines, j'ai plusieurs cas en mémoire où tu as des cyclistes qui ont joué avec leur vie. Là, puis je ne sais pas s'ils en sont conscients ou s'ils sont tellement dans leur bulle qu'ils ne s'en rendent pas compte. Mais zigzaguer là, à Montréal, là, sur une rue à trois voies, puis il y a des camions, puis il y a des camions d'arrêter, puis que... Alors, voilà pour les chiffres. Donc, vous allez retrouver ça ce matin. Également, on vous disait tantôt que le nombre de véhicules électriques sur les routes du Québec augmente à un rythme important, 22,5% en trois mois après le budget fédéral, bien sûr. L'augmentation, c'est dans le Journal de Montréal que vous allez retrouver ces chiffres. On va également parler de la Société des alcools du Québec qui a changé sa position concernant la consigne et le recyclage. Et là, maintenant, la SAQ dit, la SAQ dit on est d'accord pour qu'il y ait une consigne. Donc, pour chaque bouteille de vin, par exemple, de spiritueux, on paie un montant et qu'on retourne la bouteille et qu'on récupère la consigne en question. Le bémol, c'est que la Société des alcools dit on ne veut pas gérer ça dans nos succursales. On n'a pas de place, on n'a pas d'espace, ça ne nous intéresse pas. Mais on est d'accord avec le principe parce qu'on sait, ce qu'on disait hier matin, que le grand discours des centres de tri, puis je ne les blâme pas directement, là, mais la réalité, les faits, c'est qu'on enfouit, on enfouit des bouteilles. Ça, c'est une réalité. Là, on nous a sorti un exemple d'une entreprise qui a développé une approche. Mais sérieusement, là, il y a quelque chose d'assez enrageant. Depuis des années qu'on a un discours, la technologie change, vous allez voir, on va être capable de récupérer. Dans les faits, c'est pas ça qui arrive. Fait que vous remplissez votre bac avec les matières recyclables de papier, de plastique, de métal, de verre, tout mélangé. Puis là, on vous dit, le verre est contaminé, fait qu'on peut pas vraiment l'utiliser. Alors, la grande question, c'est, OK, on fait quoi avec les bouteilles, nous autres, là? On va envoyer ça où? On ne met pas ça dans le bac parce que ça s'en va dans la poubelle. Donc, on met ça à quel endroit? On va aller porter nos bouteilles où? Il y a, semble-t-il, des exemples ailleurs dans le monde où il y a des centres. Tu vas partir le samedi matin, puis tu vas aller porter tes bouteilles de la semaine. Et puis on le voit là, dans des supermarchés avec les canettes, par exemple, les machines qui sont là. Puis quand je dis que la Société des alcools en veut pas, je suis pas certain que les détaillants en alimentation sont intéressés à gérer les bouteilles de vin, puis les bouteilles de scotch, puis les bouteilles de gin, là. Loin d'être sûr. Alors, la présidente de la Société des alcools sera avec nous tantôt. 6h12, Marc, le petit résumé. Merci beaucoup. Desjardins a fait le point hier sur la crise qui a découlé du vol des données de ses clients. On sait qu'il y a pas loin de 3 millions de clients membres de Desjardins qui ont vu en fait, qui ont été touchés par ce vol de données confidentielles, personnelles. En gros, ce que le président et chef de la direction de Desjardins, Guy Cormier, a dit, c'est qu'ils n'ont pas perdu de membres. Ils ont mis 70 millions de côté pour assumer les frais et considèrent que les gens, les membres, là, sont très bien protégés, que c'est complet. Je vais le recevoir tantôt. Mais c'est arrivé là, au début de mes vacances. Je quittais là, puis on était là-dedans. Et j'ai suivi ça, évidemment. Sérieusement, j'ai été choqué d'un paquet d'affaires. D'abord, le discours voulant que les montants d'argent dans les comptes étaient protégés était une façon pour moi de détourner l'attention du public du problème le plus important. Je le sais très bien que mon cash y est protégé. Ce que je sais aussi, c'est que mon identité ne l'est pas. Et que le vol d'identité crée non seulement des problèmes, mais que le vol d'identité peut te suivre pendant des années. Alors, moi, ma crainte, c'était pas de me dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me voler de l'argent dans mon compte, qui va faire une transaction frauduleuse. Ma crainte, c'était de me dire est-ce que quelqu'un va me voler mon identité, puis je vais être pogné avec ça. Puis on nous a dirigés vers qui? Equifax, qui est une compagnie qui vient de payer des centaines de millions pour avoir échapper les données. Avez-vous entendu le gouvernement Legault parler beaucoup de cette question-là, à part de dire qu'on fait confiance à Desjardins? M'excuse, là, mais là, le gouvernement Legault l'a échappé sur celle-là. Le vol de données, et c'est pas que Desjardins, on a vu Capital One par la suite, mais d'autres institutions. Ce matin-là, qu'est-ce qu'on sait de l'enquête policière? Rien. Un gars tout seul a réussi à déjouer le système. Puis là, je sais qu'il y a un litige, j'ai lu ça pendant les vacances, entre la police et Desjardins. La police voulait continuer l'enquête. Puis là, je comprends Desjardins qui dit, ben là, non, non, on va avertir notre monde, là. Puis j'ai vu l'expérience de Radio-Canada qui, malgré les protections, des gens sont quand même allés chercher des cartes de crédit puis des cartes de débit sans trop de problèmes. Fait que savez-vous quoi, là? On s'en va en campagne électorale et un des enjeux les plus importants, ça devrait être ça. La responsabilité du gouvernement d'imposer aux entreprises des mesures. Tu sais, quand je vois Desjardins qui dit « Ah, on a modifié nos approches, notre technologie, ça veut dire quoi? C'était pas adéquat avant? » Comment quelqu'un tout seul a pu faire ça? Il y a un paquet de questions qu'on va poser évidemment ce matin, mais sérieusement, là, de voir que le gouvernement du Québec qui s'apprête à donner nos données à confier ça à des entreprises privées, avec le ministre Éric Kerr, qui dit « Ouh, on surveille ça, là. » Et je vous le dis, là, je ne blâme pas que Desjardins, là. Toutes les institutions sont à risque. Il y a des institutions qui sont touchées. Ça fait moins de bruit parce que le nombre est moins important. Mais ce sont de joyeuses emmerdes. Et moi, je ne comprends pas qu'au Québec, au Canada, on peut s'ouvrir un compte dans une institution financière aussi facilement et en volant l'identité et en posant pas de questions. Je voyais, je pense, pendant mes vacances, d'autres pays où le citoyen a une carte à puce vraiment protégée, que tu peux pas, là... Tu sais, il y a des moyens de protéger. C'est jamais 100%. Il y a pas de risque zéro. Mais ici, là, on se traîne les savates, quelque chose de rare. Puis là, tu te retrouves avec des dossiers de crédit tout croche, avec deux entreprises qui s'en occupent, qui te font payer 16,95 par mois, supposément, pour faire le tracking de tes activités, si jamais il y a un problème. Sérieusement, là, comme client consommateur, pas tellement rassuré. Bon, dans les autres nouvelles également, il y a le dossier d'Air Canada. Je vais attirer votre attention sur un texte ce matin de Michel Girard dans le Journal de Montréal. Parce que là, hier, on a appris quoi, là, que Air Canada mettait 200 millions de plus pour boucler la transaction avec Transat. On a réglé avec le plus gros actionnaire. Et le groupe qui tentait, évidemment, de mettre la main sur le groupe MAC, là, qui tentait de compétitionner, s'est fait tasser même par un tribunal administratif, considère... Vincent Quérac qui considère que les actionnaires sont défavorisés par cette transaction. Puis il y a d'autres groupes qui étaient intéressés, semble-t-il. Et le PDG, le grand patron d'Air Canada, lui a collecté 52 millions en vendant des actions. Il avait le droit de vendre. Là, tu dis, ce gars-là vend ça au mois d'août, là, le premier, à l'époque où on est dans les transactions puis qu'on est en train de finaliser le deal avec Air Transat. Sérieusement, là, il me semble qu'il y a des questions à poser. Et je maintiens que je ne pense pas que c'est dans l'intérêt vraiment du consommateur qu'on se retrouve avec ce type de transaction. Aussi, ce matin, dans la presse, deux nouvelles à retenir. D'abord, il semble que la CAQ va aller de l'avant avec la création d'un poste. C'était dans les promesses d'un poste de commissaire à la langue française, relevant directement de l'Assemblée nationale. Et que on pensait que le gouvernement Legault avait mis ça de côté. Ça a l'air que non. Et qu'on va donc donner des pouvoirs pour justement créer ce poste qui va être en mesure de recevoir les plaintes, formuler des recommandations. Et tout ça pour protéger le français au Québec. Et l'autre chose, c'est un tribunal. Il faut faire attention. Si vous êtes travailleur de la construction, là, on vient d'abolir la clause qui oblige les entrepreneurs de faire des embauches locales. Ce que j'appelle l'approche Rimbaud. Si tu viens dans ma région puis que tu arrives du Saguenay ou de la région de Québec puis que tu es l'entrepreneur, là, tu vas embaucher mon monde. Parce que nos familles ont le droit de vivre. Puis là, il y a un juge qui a dit, finalement, non, ça ne peut pas être un critère. Ça ne s'appliquera pas pendant les conventions collectives actuelles, mais il y a quand même un jugement. Alors, Rimbaud n'est pas content, la FTQ Construction n'est pas content non plus de cette décision. Et puis, un mot en terminant sur Jeffrey Epstein. Cette histoire-là, elle est rocambolesque. D'abord, on a confirmé hier que c'était, en fait, qu'il s'était suicidé. C'est ce que dit le pathologiste. Deuxièmement, on découvre que, alors qu'il devait être surveillé aux 30 minutes par des gardiens expérimentés, je rappelle qu'il est dans une section d'une prison qui accueille ce qu'on appelle des criminels de notoriété, des chefs de la mafia, des leaders de cartels mexicains et des abuseurs de petites filles comme Jeffrey Epstein. Là, t'apprends quoi? Qu'on ne l'a pas surveillé pendant des heures alors qu'il avait fait entre guillemets, une tentative de suicide il y a quelques jours, quelques semaines, et que le garde qui était là n'était pas un garde tout à fait formé, qu'on manque de personnel, qu'ils sont en temps... Bref, tout croche. Là, je dis ce matin que c'est normal qu'il y ait des cas comme ça de négligence, puis que c'est pas le premier gars qui se suicide en prison. C'est vrai. Mais comment ça se fait que ce gars-là n'est pas mieux protégé? Comment ça se fait que ce gars-là n'est pas mieux surveillé, surtout, quand tu sais qu'il est à risque? Et c'est sûr que ça alimente les théories en disant il y a bien du monde ce matin, depuis samedi, qui sont soulagés de savoir que Jeffrey Epstein est mort. Donc, ça veut dire qu'on a été négligent. On l'a laissé dans sa cellule tout seul. On a enlevé le détenu qui était là, ce qui n'est pas dans les procédures. Puis lui, là, le gars déprimé, il est seul dans sa cellule, il a pris ses draps, puis il s'est enlevé la vie. Il y a un texte dans le New York Times ce matin de James B. Stewart, qui, il y a un an, a fait une entrevue avec Jeffrey Epstein chez lui à New York. Je vous résume ça là, en quelques phrases. Un, il dit, c'est de l'hypocrisie. C'est normal d'avoir des relations sexuelles avec des filles mineures. À une époque, c'était permis. C'est une question culturelle. Comme à une certaine époque, l'homosexualité était interdite. Donc, il dit, moi, j'aime ça coucher avec des petites filles. Deuxièmement, je fraye avec des personnalités. Dans sa maison, des photos avec qui? Woody Allen. Je vous rappelle qu'il a marié la fille adoptive. Photos avec Bill Clinton. Photos avec des princes saoudiens. Bref, M. Jet Set, évidemment, a des connexions à travers le monde. Et il a dit à cette personne, puis tu ne peux pas me citer, mais aujourd'hui, comme il est décédé, il le fait. Si tu savais ce que je sais sur tous ces gens-là, leurs petits secrets, tout le monde a ses petits secrets. Petit secret de perversion, petit secret de consommation de drogue, mais j'en sais des affaires. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On nous promet que les complices, hommes, femmes, qui l'ont alimenté avec des adolescentes, ben, seront pourchassés par la justice. On a bien hâte de voir ça. 6h22, 25 secteur de Terrebonne.